une phylogénèse. Friedrich Dürrematt aimait dire que la Suisse n'existe pas. Pourtant, elle est bien là, avec son drapeau carré, ses mantres à coucou, son chocolat et ses commerces internationaux. La question serait plutôt de savoir si les Suisses existent, car ce petit pays au cœur de l'Europe est constitué d'un agrégat de populations qui s'est fait sur plusieurs siècles depuis une première alliance militaire en 1291. On peut se demander si la Suisse actuelle a sa propre phylogénèse qui se serait développée entre terres rurales et zones urbaines. Avec l'historien Roberto Biolzi, cette série d'entretiens sur Lumpenstation se penche sur l'histoire suisse en cherchant la réalité dans les mythes et les réalités devenues mythes. À travers une succession de batailles, alliances et mercenariats, nous allons revenir sur l'épopée d'un État, à partir de sources et terrains de bataille, de manière à remettre un peu d'ordre dans l'utilisation politique de certains événements, que cela soit pour glorifier ou mépriser l'histoire suisse.
Bienvenue sur Lumpenstation pour l'épisode 2 dédié au mythe fondateur de la Suisse. Je suis en compagnie de Roberto Biolzi. La dernière fois, le premier épisode, on a un peu vu le départ d'une alliance entre trois territoires qui ne s'appellent pas encore la Suisse, qui sont, on va dire, presque déjà confédérés, mais les choses ne sont pas très claires, et commence quelque part une histoire de succès militaire qui va créer une réputation qui quelque part se cristallise avec la bataille de Morgarten en 1315 qu'on a vu l'année dernière. Et on était resté sur l'idée, quelque part, un peu l'image d'une espèce de Pac-Man en forme des mentales qui commence à sortir de ce territoire d'origine pour aller chercher des alliances ou des conquêtes. On va voir ça en détail avec toi, Roberto. Donc, on peut peut-être repartir par rapport à ce succès militaire.
Ouais, alors, je pense que tu as un peu anticipé dans le sens où alors, c'est juste, effectivement, il faut pas. C'est un réseau d'alliances. Hein, en tout cas, là, c'est vraiment une histoire d'une alliance. On ne peut pas du tout parler d'une entité politique en soi. Hein, elle s'appelle vraiment les Confédérés, donc une fédération, une alliance où, on va dire, trois entités politiques régionales, rurales, ont plus ou moins le même. Les mêmes droits, on va dire, dans cette alliance.
Schwyz, Unterwald et Uri.
C'est, on va dire, les cantons primitifs, les Waldstädte, comme ça, comme généralement, comme ils sont appelés effectivement aussi par les sources. C'est la Ligue des Suisses, les Confédérés. Ça, c'est quand même un terme qui apparaît déjà à cette époque. On n'est pas encore vraiment à l'expansion. Alors, il y a effectivement cette victoire, certainement, en 1315. Évidemment, la nouvelle, bien sûr, circule. On commence déjà à se faire une certaine réputation. Et je pense qu'il y a là, après 1315, une autre. Mais voilà, je suis désolé, effectivement, c'est peut-être un peu une histoire un peu. On l'appelait un peu l'histoire bataille, que, on va dire, l'historiographie, on va dire, les sciences historiques du début du XXe siècle ont vu comme vraiment un type d'histoire démodée, un peu à l'ancienne, où vraiment l'histoire se faisait beaucoup par le récit des batailles, finalement. Mais n'empêche que si on veut vraiment se plonger à cette période-là et comprendre comment se construit ce réseau d'alliances, on est obligé de passer par là. On est obligé de raconter un peu ces batailles, ces guerres, et surtout les conséquences qui ont amené par la suite.
Excuse-moi, je fais une petite digression, mais par rapport à ce que tu dis, Voilà, je rappelle que tu es aussi historien militaire du Moyen-Âge, donc ça serait aussi intéressant éventuellement pour une saison 2 de voir notre expert en histoire pour avoir un complément, mais en dehors de ça, c'est peut-être... donc je pose la question aussi par rapport à ces récits militaires de bataille, que quelque part, il y a une prémisse de... le sentiment d'une communauté, d'une appartenance à une communauté, ou je vais trop loin?
Là, je pense qu'on n'est pas encore là. Les chroniques, ce qu'on parle, les chroniques de l'époque, bien sûr, ils racontaient les faits et les batailles, parce que c'était des événements assez exceptionnels et qui avaient des conséquences politiques importantes. Donc c'est clair que évidemment, voilà, dans une chronique, on peut trouver des renseignements comme quoi là, comme par exemple, ça a été un hiver particulièrement rigide et les récoltes ont été, je sais pas, été une saison. Les chroniqueurs parlaient des choses, évidemment, qui touchaient.
Des faits, quoi.
Des faits, et évidemment, la politique, à ce moment-là, était beaucoup faite par la guerre. Aussi parce que, voilà, disons-le, la grande différence entre la guerre médiévale et les guerres, on pourrait dire, contemporaines, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire passer, les gens ont un peu de la peine à comprendre, c'est que les politiciens et ceux qui voulaient faire la guerre, ils la faisaient. Comme on a vu avant, le duc Léopold d'Autriche, ben il était là, Morgarten. Dans ce monde un peu chevaleresque, d'une certaine manière, les politiciens, les rois, les princes, les comtes, les barons, ben faisaient la guerre. C'était ce qui leur permettait aussi d'avoir un certain nombre de privilèges. Donc du coup, ça, il va de soi que les chroniques et les sources narratives de cette époque, même littéraires, parlent finalement de ces événements militaires. Je rappelle quand même que, voilà, effectivement, c'est un peu, on a envie de se détacher de ce passé guerrier sanglant, bien sûr, et c'est pour ça que c'est devenu quelque chose un peu démodé. Mais en même temps, l'histoire, le premier texte de l'histoire occidentale, la guerre de Troie et l'Iliade, c'est une histoire qui parle de guerre, pour dire. Donc du coup, c'est pour ça qu'évidemment, bien sûr, on peut insister plutôt sur le côté politique ou regarder ces alliances, mais c'est impossible de ne pas parler des batailles à ce moment-là. Parce que comme le dit, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est une période très belliqueuse, où il y a des longs moments de belligérance pensons à la guerre de 100 ans, la plus connue, entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France. Et c'est aussi un peu à ce moment-là que les historiens ont vu une première formation d'une certaine proto-sentiment patriotique. Bien sûr qu'on est un peu dans l'anachronisme, mais ce qui fait l'identité d'un pays, c'est souvent une guerre en ennemi fédérateur. C'est bien pendant la guerre de 100 ans que les Français ne commencent plus à vraiment à mourir pour le roi de France, mais de plus en plus pour le royaume de France, parce qu'ils étaient envahis par les Anglais, et du coup, la genèse de l'État moderne, on l'a dit la dernière fois, les États modernes se créent, comme on les connaît maintenant, au 19e siècle. Mais ce processus, effectivement, on le fait remonter généralement à ce moment-là, à la fin du Moyen-Âge.
Et on a dit dans l'épisode précédent que les Suisses, quelque part, ne suivent pas totalement les règles. Il n'y a pas de vrai seigneur qui partirait à la guerre, mais c'est presque une décision populaire ou paysanne qui fait qu'il y a une alliance qui pousse la population à prendre le risque de prendre les armes, tout en, quelque part, des fois, nous ne suivant pas les règles de chevalerie.
La déontologie chevaleresque, on pourrait dire.
Exactement. Comme ça. Et on peut se dire, par rapport à des sources ou en tout cas faire peut-être une spéculation, mais sourcée, de ce qui peut se passer dans la tête des gens de l'Alliance après Morgarten. Parce qu'on va voir qu'il y a une autre bataille ou guerre qui arrive presque une quinzaine d'années plus tard. Mais du coup, quel est un peu l'état d'esprit, dans le sens, est-ce qu'il y a déjà une prise de conscience qui dit, ben voilà, on a gagné contre une grande puissance. Il y a déjà une conscientisation ou c'était un coup de chance et on verra.
On n'est pas encore là, je pense. Mais c'est une première étape. On va faire l'histoire de la psychologie. Moi, si tu me demandes qu'est-ce qui se passait dans les mentalités des gens qui... Alors, je pense qu'il y avait certainement une exaltation, puisque gagner... Certainement, quand une armée de chevaliers, il y avait aussi un aspect économique derrière, c'est-à-dire qu'ils se faisaient certainement piller aussi l'armée. Une armée qui se déplace, c'est un peu comme une espèce d'État. Là, avant, on a parlé à Morgarten, il y avait peut-être, je ne sais pas, entre 1000 et 5000 combattants. C'est difficile à estimer. Bah, à cette époque-là, c'était la taille un peu de la ville de Berne, dont on parlera dans un instant. Donc, gagner contre une armée sur le champ de bataille, ça voulait dire aussi s'enrichir. Il y avait tout un butin qu'on pouvait récupérer des armes, mais des objets, des ravitaillements. Donc, bien sûr, il y a eu un état un peu d'exaltation. Après la bataille de Morgarten, c'est une bataille qui fait partie d'une série de batailles entre les confédérés et les Habsbourg à ce moment-là, donc pendant le 14e siècle, le 14e, 15e siècle. Là, on est au début, je pense qu'il y avait certainement un état d'exaltation, mais il n'y avait pas... Je pense que voilà, il y a eu un écho de cette bataille, et comme on le verra dans un instant, il y a probablement aussi des villes et d'autres pouvoirs politiques urbains qui commencent à voir dans cette alliance une possibilité aussi pour s'affranchir de leur seigneur.
Donc on peut s'imaginer aussi que c'est bien quand on retient des batailles ou des dates ou plus ou moins des périodes, c'est un peu une guerre continue avec des moments plus calmes, un peu des escarmouches, mais quelque part il y a une pression permanente.
Mais bien sûr, on parle de la guerre guerroyante. Je ne sais pas qu'il y a un état de guerre et il y a deux armées qui s'affrontent et voilà, tout se décide à ce moment-là. On peut parler de la guerre des Suisses contre les Habsbourg. Prenez pourquoi on appelle la guerre de 100 ans, la guerre entre les Français et les Anglais, qui finalement éclate plus ou moins à ce moment-là. Ben, parce qu'elle a duré 100 ans, parce que c'était un état de guerre permanent avec plein de trêves. Et puis après, la guerre recommençait et ça ne s'arrêtait pas, c'est souvent. Et ça aussi parce qu'on est à une époque où, quand même, à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle voilà, les premiers États, les monarchies, ces grandes monarchies ou alors les villes, avaient des moyens financiers plus consistants et donc, du coup, pouvaient faire la guerre pendant plus longtemps. Ça, c'est aussi, évidemment, l'aspect économique.
C'est le moment déjà des sièges autour des villes ou ça...
Ah oui, oui. Ah ben, le siège, c'était la forme prédominante de la guerre médiévale. Ça se terminait souvent par un siège. Puisque, qu'est-ce qui se passait quand vous êtes attaqué, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y avait pas du tout les ressources pour créer des francs. La première guerre mondiale, vous voyez, les tranchées. Allez, c'était pas du tout comme ça, la guerre médiévale. Il y avait pas. C'était plutôt des incursions en territoire ennemi. Ce qu'ils font d'ailleurs les Habsbourg à la bataille de Morgarten. Ils arrivent. Bon, ils avaient aussi des terres. C'était aussi un peu leur fief. Mais voilà. Ils rentrent. Et après, ce qui pouvait passer, c'est que soit il y avait une bataille, soit alors celui qui se défendait cherchait l'endroit le plus apte pour se défendre, généralement au château. Donc, ils faisaient un peu terre brûlée autour, et ils abandonnaient le reste des garnisons. Ils se concentraient, disons, dans le château, en tout cas, la forteresse qui était celle qui était considérée la plus adaptée pour se défendre. Et du coup, il y avait des sièges. Puis du coup, il y avait une armée qui mettait le siège. Et celui qui l'a siégé, il attendait bien sûr qu'il y avait peut-être une armée de secours qui venait dégager l'autre armée. Bien sûr, le siège. Bah, quelques historiens ont fait des statistiques. Le 80%, le 80% des opérations militaires médiévales, c'était des opérations de siège. Quelques batailles. Ou sinon des chevauchées, ce qu'on appelle une chevauchée, c'est-à-dire une incursion de cavaliers en terre, cioè dans le territoire ennemi, qui visait à détruire les récoltes.
Forme de razzia.
Oui, de razzia, exactement, pour affaiblir économiquement l'ennemi. C'était ça. Hein. Les batailles étaient très rares. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans les chroniques.
Ça marque les esprits.
Bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Et il y avait des conséquences, bien sûr, politiques aussi derrière. Souvent assez importante.
Donc après la bataille de Morgarten, qu'est-ce qui attend les Suisses
On va dire, qu'est-ce qui attend
Ils ne le savent pas encore, mais on le sait.
Disons, il y a un autre protagoniste, évidemment, qui rentre un peu dans cet enjeu d'alliance, qui deviendra bien plus tard la capitale de la Suisse, on est bien d'accord. Qui est la ville de Berne, qui était une ville qui avait jouissait de l'immédiateté impériale. On en a parlé auparavant. C'est-à-dire que c'était une ville, on va dire, libre. Il n'y avait que l'empereur très lointain qui était, on pourrait dire, le seigneur, une autorité encore au-dessus de cette ville. Qui, comme d'habitude, était impliqué dans une série de conflits avec une autre ville voisine, la ville antagoniste de Berne par excellence, et comme tu le sais, c'est qui les grands ennemis des Bernois?
Lausanne.
Alors, un peu après, oui, alors, on pourrait dire...
C'est mon côté culinaire avec le papé vaudois.
Si on doit penser vraiment... D'un point de vue territorial, il y a deux villes qui sont à ce moment-là souvent dans un état un peu de tension. C'est la ville de Fribourg. Fribourg et Berne étaient les deux grands rivaux, on peut dire les grands rivaux de cette époque. Berne avec une grande politique expansionniste. Fribourg qui était une ville habsbourgeoise. Qui était une ville qui dépendait quand même finalement des Habsbourg. Et voilà, ils rentrent en conflit, surtout parce que ils sont rentrés tout dans les détails, mais Berne refuse de rendre hommage à l'empereur Louis de Bavière, qui était soi-disant quand même son seigneur, qui est excommunié par la même occasion, ce qui a valu à Berne le soutien de l'Église, et on est autour de 1300, dans les années 1320 environ. Donc Fribourg, allié des Habsbourg, crée une coalition avec la noblesse de la région de la Suisse romande actuelle. Alors là aussi, les évêques de Lausanne, bien sûr. Il y a Bâle, il y a les comtes de Nidau, il y a les Savoies. Pour...
Berne, elle est encerclée.
Quoi. Oui, Berne, elle est encerclée, mais qu'est-ce qu'elle fait, Berne? C'est pour ça qu'on en parle. Berne, elle arrive à... avoir l'aide des trois cantons primitifs qui étaient en conflit avec les Habsbourg. Donc du coup, d'un côté, il y a Fribourg avec un peu la noblesse d'épée de la Suisse romande actuelle, et de l'autre côté, il y avait Berne avec Soleur, qui était depuis toujours un allié de Berne. Il y avait peut-être aussi Bienne, vu qu'on a bien, parce que je ne sais pas, alors, on ne parle pas des Biennois dans les textes, mais en tout cas, Berne, à ce moment-là, elle était aussi alliée avec Bienne, si je ne me trompe pas.
Parce qu'avant, tu disais que Fribourg avait pris avec Nidau.
Oui, les comtes de Nidau, ils étaient alliés de...
Donc Bienne, ce n'était pas le comte de Nidau.
Non, alors c'était... Non. Bienne, je pense qu'il révélait... Non, Bienne, c'était déjà une ville, je pense que... Alors, je ne sais plus à quel moment, mais au Moyen-Âge, elle était plutôt dans l'orbite des évêques de Bâle ou de Berne. Ça dépendait un peu des moments. Mais bref, il y a une coalition qui se forme. Il y a, il me semble aussi, le comte de Valangin qui fait une incursion au territoire bernois, Berne crée une garnison à Laupen. Là, on va parler de la bataille de Laupen, qui est aussi une bataille qui a caractérisé, bien sûr, cette période. Donc là, on peut dire l'armée bernoise commandée par Rodolphe d'Erlach, qui est un personnage notable, connu pour cette époque, allié avec des troupes uranaises, suissoises, unterwaldiennes et soleroises. Il marche en direction de Laupen et là, il y a une vraie bataille. On parle d'environ 6000 hommes d'un côté et de l'autre, donc on est en plus ou moins 10-12 000 combattants. C'est beaucoup. Là, on parle vraiment, c'est quand même une bataille, on va dire, en plus d'envergure par rapport à la guerre de Morgarten. Et là, alors, sans rentrer dans les détails, les Bernois et ses alliés remportent aussi une victoire écrasante. La cavalerie adverse, elle est décimée. Évidemment, on a parlé un peu avant, c'est le moment où la chevalerie perd un peu cette aura d'invincibilité qu'elle a eue pendant des siècles. La noblesse romande, certains historiens disent qu'elle ne se releva jamais de cette défaite. Et voilà, là, les conséquences de cette bataille auront bien sûr aussi des conséquences politiques au niveau de l'alliance.
Et on peut dire aussi que Berne va se diriger vers l'alliance des Waldstätten parce qu'ils ont un peu le même statut juridique par rapport à la question là de l'empereur que tu disais avant. Donc c'est un peu logique de presque s'allier par rapport à Fribourg et aux autres qui sont, eux, soumis aux
Le Fribourg était habsbourgeois, et les autres, voilà, c'était quand même aussi un peu de noble. Donc, il faut voir qu'aussi, comme arrière-fond, c'est aussi des guerres, effectivement, un peu sociales. Là, on a des communautés rurales alliées avec une communauté urbaine. C'était pas quand même la même chose, évidemment. Mais qui s'allient, effectivement, pour combattre contre des seigneurs, contre la noblesse. Et alors, comme tu le dis, après, évidemment, là, il y a un vrai écho. Berne, d'ailleurs, rentrera à faire partie de la confédération de cette alliance en 1353. Et avant, on peut dire juste avant après la bataille de Laupen, mais avant l'entrée de Berne, il y a d'autres villes importantes qui rejoignent les Waldstätten, c'est-à-dire Lucerne en 1332. Et surtout de Zurich en 1352. Donc là, on voit que on n'est plus, c'est un réseau d'alliances qui se complexifie ultérieurement. Petit, quand même, on va dire, détail, on va dire, anecdote peut-être de cette bataille de Laupen, elle est aussi souvent rappelée par l'historiographie parce que c'est là qu'on aurait utilisé pour la première fois le fameux drapeau, ce qui est venu après le drapeau suisse, c'est-à-dire. La croix rouge sur un fond rouge. Petit lapsus.
Donc c'est là où se commence à créer quand même une idée de Suisse ou de, en tout cas de drapeau qui sous-entendrait par défaut justement une alliée de territoire.
Alors je dirais pas. Non, pour moi, non, dans le sens où les drapeaux à la guerre, il faut s'imaginer qu'ils étaient des signes de ralliement pour donner des ordres. Voilà, les drapeaux, ils avaient vraiment une véritable fonction militaire. C'était plutôt un drapeau qu'ils utilisaient, et les Waldstätten, dans ce cas Berne, pour se donner des ordres, pour se donner des signaux. Alors, on pourra discuter pourquoi ce drapeau-là. Il y a plusieurs théories pourquoi on a choisi. Mais finalement, c'était juste un signe de ralliement militaire. Et après, on en a voulu faire finalement le... Mais pour moi, là, comme je disais avant, pour moi, là, il n'y a pas encore véritablement de sentiment, quoi que ce soit. On est dans un contexte d'alliance de forces politiques qui se font la guerre.
Et il n'y a pas de vrai enjeu esthétique, quoi. C'est très pragmatique.
C'est très pragmatique. Drapeaux... Les armées médiévales fonctionnaient grâce à des drapeaux, à des tambours, à des trompettes. Et dans la mêlée, il fallait bien des signaux que tout le monde pouvait comprendre et savoir un peu, Et le drapeau, symboliquement parlant, voilà, c'était... si le drapeau n'était plus là, eh ben, là, ça voulait dire que c'était problématique. Si on prend le drapeau symboliquement de l'autre, bien sûr, avait une signification symbolique très importante. Ouais.
Et des villes comme Lucerne et Zurich, quel était l'intérêt, quelque part, de s'allier avec les Waldstätten, qui aussi, justement, c'est un peu une prise de risque par rapport à tous les autres territoires, de s'allier quelque part avec les petits, non, par rapport à rester bien rangé avec un pouvoir plus large.
C'était une volonté d'autonomie. Lucerne, assez vite, du truc, qui était aussi une ville sous le joug des Habsbourg, ben voilà, et elle profite. C'est-à-dire, pour faire un exemple, pour expliquer ça, je pense que c'est assez... en tout cas, pour l'expliquer vraiment, vulgariser un peu, c'est... Si on est tous un peu dans... Voilà, on a un seigneur, il y a quelques gens, on est dans une... je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre pour expliquer. S'il y a quelqu'un qui montre d'une certaine manière l'exemple, s'il y a quelqu'un qui... Quand il y a un pouvoir politique fort qui domine les autres, et il y en a un qui arrive à le défaire militairement, eh bien les autres, ils commencent à se dire « Ah, mais alors c'est possible !»
Et il n'y a pas de représailles.
Ben alors, bien sûr, les représailles, ils sont là. C'est-à-dire dans le sens où on a quand même déjà vu deux batailles. Des représailles, il y en avait. Mais en même temps, il faut s'imaginer un pouvoir politique assez long à se mettre en place. Ce n'est pas comme maintenant que tout va extrêmement vite, que dans l'espace de quelques semaines, là, parce que voilà, les Américains, par exemple, ils arrivent à déplacer une armée en Europe et à la mettre à la frontière de l'Ukraine. Tout va beaucoup plus lentement. Donc du coup, avec Lucerne, comme toutes ces villes ou ces communautés rurales, elles avaient plus, finalement, elles ne voulaient pas avoir de seigneur, elles voulaient s'émanciper, et du coup, dès qu'il y en a qui arrivent à gagner contre ce pouvoir, on pourrait dire féodal, ben, il y en a d'autres qui les suivent et qui préfèrent.
On peut rester dans l'idée pragmatique, dans le sens qu'il n'y a pas à l'époque une idée romantique de l'autonomie. Donc, c'est pas une idéologie à laquelle on se rallierait. Ça reste assez pragmatique, où il y a déjà un peu un sentiment, je sais pas, avec des écrits d'une force bourgeoise qui commence à prendre conscience de son pouvoir économique.
Mais je pense qu'on peut, oui, bien sûr. Je pense. Après, voilà, ce qu'on a. Avant, je parlais effectivement. Il faut être un peu romantique pour voir la naissance de la Suisse à ce moment-là. Mais bien sûr qu'on peut. C'est surtout un peu ce qu'on a fait après. Quand on a parlé, quand on a commencé. Donc là, on n'est pas encore vraiment à la naissance des mythes fondateurs. Là, on parle vraiment finalement de faits historiques, de choses qui se sont véritablement passées. Après, on en a voulu en faire une histoire, on va dire, de rébellion, du bourgeois,
de la tyrannie,
des paysans, de la tyrannie. Après, moi, je pense qu'il y en aura plein d'histoires comme ça racontées pour cette période. Et alors, après qu'il y a un conflit véritablement social entre noblesse et bourgeoisie, ça je pense que oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plusieurs formes de pouvoir, et c'est clair que la noblesse qui avait, en tout cas sur le champ de bataille, dominé pendant quand même des siècles, le noble chevalier était considéré comme invincible sur le champ de bataille.
C'est presque 1000 ans de chevalerie, quand même.
Ouais, je sais pas. Alors, moi, je dirais que vraiment la période, vraiment, la chevalerie, on dit que la chevalerie, elle est née vraiment autour du Xe siècle, comme ça. La révolution féodale. Il faudrait tout un autre épisode pour parler de choses. Et je dirais que pendant 3-4 siècles, jusqu'au XIVe siècle, elle avait vraiment une aura d'invincibilité. Dans les chroniques médiévales, les fantassins, donc les paysans, en tout cas les habitants des châtelliers, ils n'étaient presque même pas mentionnés. Si un chevalier comptait sur le champ de bataille comme 10 hommes à pied, tu vois, je veux dire, il y avait quand même... là, on est... On, et après, ça ne veut pas dire que là, ça peut être le début, on pourrait dire, du déclin de la chevalerie du champ de bataille, mais on n'en est pas encore là. On verra que, encore pendant les guerres d'Italie, donc bien plus tard, les chevaliers avaient encore leur mot à dire sur...
Est-ce qu'on a des sources par rapport à l'organisation de ces fantassins suisses qui ont du succès avec la formation du carré suisse, dans le sens, est-ce qu'il y a déjà une école de recrues?
Non, alors à ce moment-là, non, pas encore. Aussi, le carré suisse, il sera plutôt, ce sera, on va dire, on en a un peu parlé effectivement la fois d'avant, mais pour cette époque-là, Il y a le drapeau, mais les sources, c'est difficile de vraiment étudier l'organisation militaire.
Il est là, il est déjà carré, mais on ne sait pas si c'est l'image aussi de la formation.
Alors ça, on en discutera. Alors, je ne sais pas, effectivement, il y en a, on pourrait dire, la Suisse a le drapeau carré en honneur au carré suisse. Je sais pas, peut-être. Il y en a qui disent que c'est un rapport plutôt au drapeau du Vatican. Ça dépend, mais...
On sait pas exactement, quoi.
Il y a des choses, enfin... Alors, que je sache, peut-être il y a des recherches ou il y a des choses que je connais pas. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Suisses, c'est parmi les premières armées européennes qui a deux fantassins d'hommes à pied qui arrivent à gagner. Là, on est déjà au deuxième... Simor Garten, c'était vraiment plutôt un acte un peu de terroriste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'effet surprise, etc. Là, à l'Aupen, bon, aussi avec l'aide, bien sûr, c'est surtout Berne qui gagne cette guerre. Oui, Berne, ils avaient aussi certainement un peu de cavaliers, on est bien d'accord. Mais c'est une bataille qui surtout attire quand même un peu l'intérêt d'autres villes. À rentrer dans... D'ailleurs, on arrive un peu à ce qu'on appelle vers le milieu du 14e siècle, à ce qu'on appelle la confédération des huit cantons. Après, voilà, on en a déjà un peu discuté pour ces histoires un peu d'alliance. Ce qui est important à dire, c'est que si pour les trois cantons primitifs, il y avait vraiment cette idée égalitaire que chaque canton devait suivre les alliances de l'autre. Donc, si Uri s'alliait avec quelqu'un, Schwyz et Unterwald étaient obligés de suivre. Quand il y a Berne, Zurich et Lucerne, donc des autres villes qui font partie de cette alliance, par exemple, Berne était alliée avec les Waldstetten, mais elle n'était pas obligée d'être alliée avec Lucerne, par exemple. C'est pour ça que parler de confédération. C'est vraiment un réseau d'alliances, mais où, quand même, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. À part les trois premiers, à part les cantons primitifs. Donc voilà, c'est pour ça que dire, parler de Suisse, là aussi, ça c'est un exemple de plus qui confirme que c'est un peu abusé, voilà. C'est plutôt un réseau d'alliances assez complexe.
Et est-ce que les alliés devaient, par exemple... rendre des services, dans le sens, est-ce que y a une forme de taxation qui se met en place? Est-ce que justement il y a des échanges où des villes peuvent emmener des choses dans des cantons plus ruraux et vice versa, ou alors, comme tu viens de le dire, c'est un peu chacun fait comme il veut? Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ces relations-là? Elles sont militaires, mais il doit y avoir aussi des intérêts.
Disons qu'une alliance militaire, il va de soi qu'il y a aussi, évidemment, après des échanges commerciaux qui sont encouragés à ce niveau-là. Berne avait bien sûr une fiscalité. Quand on parle de la ville de Berne, il y avait tout aussi un territoire aux alentours. Donc, bien sûr, il y avait des formes de fiscalité. Après, évidemment, faire la guerre ensemble, ça veut aussi dire partager le ravitaillement. C'est évidemment que si vous êtes allié avec quelqu'un de puissance, lors d'une guerre, vous allez aussi en profiter d'une certaine manière. Mais je resterai quand même plutôt sur le... généralement des alliances en termes militaires. Et certainement, cela pouvait encourager des échanges, mais Voilà, je veux dire, il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment de plus, je dirais.
Et on sait déjà, la communication, s'il y avait une sorte de... Donc je pense à quelque chose maintenant qui est bien clair avec le Parlement, mais dans le sens que chaque canton a un représentant. Est-ce qu'il y avait déjà un peu une forme de communication de ce genre-là, ou alors c'était que en cas de attaque, donc défense ou d'expansion, où là on se mettait d'accord.
Il y avait ce qu'on appelait la diète, n'est-ce pas, qui était évidemment. Alors je ne sais pas si elle était déjà en vigueur. À ce moment, en tout cas, dans l'ancienne confédération, ce qu'on appelle l'ancienne confédération, donc on va dire, du 14e jusqu'à, en gros, jusqu'à la Révolution française, bien sûr, il y avait la diète où il y avait évidemment des représentants de l'Alliance dans la confédération, en principe en nombre égaux, même si, en fait, c'est complexe, parce que voilà, on sait très bien qu'après, il y aura aussi des cantons que c'est un peu des bailliages, donc des cantons qui n'ont pas du tout le même statut que les Waldstätten et des autres villes, bien sûr. On n'en est pas encore là. C'est évidemment, c'est un peu le discours idéologique qui a voulu que voilà, il y avait était en plus égalitaire, et peut-être effectivement dans cette première alliance, ça on peut le voir, bien sûr. Mais après ça devient, il y a aussi une hiérarchie. Mais par exemple, nous on était sinois. On verra le Tessin qui rentre à faire partie de la Convention bien plus tard, au cours des guerres d'Italie. Et jusqu'à Napoléon, il aura un statut de... un peu de canton soumis, d'une certaine manière. Mais comme le Pays de Vaud, donc, il y aura bien sûr aussi au niveau de la diète, donc, dans cet enjeu d'alliance, bien sûr, une hiérarchie. Il y a toujours un idéal au début, on essaie de respecter, mais bien sûr, ma foi, on sait très bien comment les choses se passent. C'est bien sûr que c'était un peu un idéal, un peu comme la table ronde du roi Arthur. Au Moyen-Âge aussi, il y avait ce mythe de cette féodalité parfaite où il y avait un roi et cette table ronde où tous les vassaux du roi ont plus ou moins ils sont égaux, en fonction du roi, mais évidemment c'est un idéal littéraire, c'était quelque chose qu'évidemment il n'y avait pas vraiment une correspondance historique.
Et je pense au fait que on a une idée un peu de cette alliance un peu morcelée, fragmentaire, parce que si on se rafraîchit un peu la géographie, voilà, Zurich, Berne, c'est pas vraiment collé, Lucerne et les Waldstätten, voilà, il y a un peu de
Soleure,
c'est un peu fragmenté, et ça me vient un peu à l'esprit. Est-ce que une partie du succès que ces alliances ont est aussi due un peu à la politique générale d'Europe? Au sens que peut-être il y a d'autres guerres, donc on va se focaliser sur d'autres territoires, parce que comme tu as dit dans le premier épisode, les Waldstätten, ce n'est pas non plus des zones très riches au niveau de taxation. Donc quelque part, est-ce qu'il y a d'un côté le fait de dire en fait c'est mieux de les avoir autonomes, parce qu'une guerre contre eux va coûter beaucoup plus cher que d'autres francs qui doivent pas être perdus.
Moi je pense que à un moment donné, bien sûr, pour les empereurs, on va dire pour dans ces régions-là, et là aussi on pourrait rebondir sur finalement ce qui deviendra après la neutralité des Suisses. C'est certain que ce qui était important pour tout ce qui était au nord de l'Europe, pour avoir accès à l'Italie, pour les empereurs, pour pouvoir descendre en Italie, parce qu'ils avaient aussi des droits au nord de l'Italie depuis l'époque de Charlemagne, c'était bien sûr l'idée. Si on est en paix avec ces territoires, c'est bien. Je veux dire, c'était probablement un endroit de passage. À un moment donné, bien sûr, que plutôt qu'à un moment donné, voilà, il lâche prise, parce qu'on ne va pas non plus continuer à faire la guerre, bien qu'il y en aura encore. Là, on a vu deux, on verra bien que contre les Habsbourg, il y aura encore des guerres par la suite. Mais alors, par rapport à ce que je disais, alors, c'est sûr que pour expliquer aussi un peu cet état de belligérance et la particularité des Suisses, c'est clair qu'il ne faut pas. Il ne faut pas oublier que la guerre, c'était aussi une source. Alors, on pouvait mourir à la guerre, mais c'était certainement un peu une source aussi d'enrichissement. On est à une époque où les gens, normalement, étaient déjà quand même payés. On recevait la solde. Donc, là aussi, commence un peu le mercenariat suisse. Mais surtout, on va dire, à partir de ces épisodes-là qu'on vient...
La guerre de Laupen est une... premier mercenariat quelque part ou c'est vraiment une alliance?
Non, là on pouvait pas, non, parce que là c'est vraiment une alliance, ils combattent entre eux. Après, moi, justement, que j'étudie, moi je suis plutôt, j'ai beaucoup étudié la principauté savoyarde, donc ben, tout ce qui est, tout le pays de Vaud, on va dire, une grande partie de la Suisse romande à ce moment-là fait partie de la Savoie, de la principauté savoyarde, qui était en état. Qui allait jusqu'au Piémont et jusqu'à Nice, un grand état encastré des deux côtés des Alpes. Ah ben, on voit très bien que les Suisses commencent, les Bernois surtout, commencent à être engagés aussi par les Savoies. Et ils étaient payés. Et pour des populations un peu de montagnards, bien sûr, qui vivaient de fromage et d'élevage, je veux dire. Et certainement un peu de quelques droits de péage. Certainement, il y avait d'autres sources de revenus. Mais la guerre était vue comme un moyen un peu pour s'enrichir. Et peut-être aussi un peu pour voyager, de certaine manière, pour voir autre chose. Bien sûr, ça, c'est évidemment des aspects qu'il faut tenir en compte. Bien sûr. Et voilà, ça, on n'en est pas encore là. C'est le début. On commence à avoir des Suisses, bien sûr, qui commencent à être engagé par d'autres puissances, mais on n'est pas encore à l'époque, l'âge d'or du mercenariat suisse.
Ce que je trouve assez curieux, c'est qu'avec ces alliances, Zurich, Lucerne, la Suisse des huit, la confédération
des huit cantons,
c'est qu'il reste le nom suisse. C'est pas devenu l'Helvétie, ou c'est pas devenu la Bernoisie. Ça reste quand même presque le plus petit territoire qui va donner le nom.
C'est les Juifsois, parce que voilà, on pourrait alors évidemment.
Ils ont accepté ça, les Bernois, ils ne sont pas.
Je pense que d'une certaine manière, parce que Berne, c'était quand même une entité déjà, c'était une ville. Donc voilà, il y avait quand même une entité, c'était un petit état finalement, une ville à ce moment-là, hein, qui se gérait, en plus elle était indépendante et jouissait de l'immédiateté impériale. Après, pourquoi après? Moi je pense qu'à l'époque on les appelait, ben voilà, les gens, vu qu'il y avait, je sais pas, à Morgarten, et c'était essentiellement des Schwyzois, évidemment, tu vois, je pense qu'à l'époque ils les appelaient, on a commencé à les appeler Schwyzois et du coup... Dans chaque armée où il y avait les Juifsois, c'est devenu un peu, voilà, ça a pris le... C'est devenu un peu... On connaissait l'armée de cette alliance comme, en tout cas, les Suisses. Je ne sais pas exactement pourquoi on a choisi ce nom. Donc, pourquoi on n'a pas choisi, évidemment, de s'appeler l'Helvétia? Bon, même s'il y a quand même toujours un peu la le mot helvétique qui renvoie, bien sûr, à ces populations... À l'époque de Jules César,
encore plus loin.
Oui, mais le problème, alors on aurait pu, évidemment, alors il y a, hein, parce que l'État, finalement, quand un État se crée, l'État fait, je parle toujours un peu de la stratégie de marketing d'un État. C'est-à-dire, plus un État arrive à démontrer qu'il est là depuis longtemps, plus il est crédible. C'est comme une marque de bière qui vous dit qu'elle fait de la bière depuis 1296, je ne sais pas. Ben, ça. C'est toujours un symbole de qualité, non? Si quelqu'un est là pour légitimer un pouvoir, il faut toujours dire qu'il existe depuis longtemps. Le problème des Helvètes est que, alors, à la différence des guerres qu'on est en train de raconter, qui c'est des guerres où finalement les Suisses gagnent, ben, les Helvètes, oui, on savait qu'il y avait cette population celte ici, mais qui se font quand même assez vite dégommer par les Romains. Et finalement, on n'a que des sources romaines qui en parlent, on a quelques... Donc du coup, c'était un peu une histoire peut-être moins glorieuse à raconter que celle qu'on est en train de raconter. Et on n'est qu'au début.
il me vient, pour conclure cet épisode, en tête la très connue citation de Dürrematt qui dit « La Suisse n'existe pas ». Et qui, justement, la Suisse n'existe pas parce que c'est Berne, Zurich, Lucerne. Et c'est plutôt l'extérieur qui va commencer à les appeler
Oui, bah en tout cas, entre eux, c'est sûr, on le verra. Hein, il y a quand même une certaine... il y a des alliances militaires, mais il y a aussi des guerres intestines, bien sûr, entre...
Ils ne vont pas toujours d'accord.
Mais complètement pas. On le verra d'ailleurs dans les guerres d'Italie. Ce problème d'unification, c'est quand même un grand problème. C'est un problème. Et le fait qu'il y a des alliances militaires, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas des conflits internes entre ces petites puissances régionales. Que quand même, si elles se mettent ensemble, elles constituent déjà une certaine puissance militaire.
Ah, je vais finir. Ça va peut-être venir pour tous les épisodes. La conclusion des épisodes, une dernière image, donc c'est presque, on peut un accordéon, quoi. C'est de temps en temps, on est très à côté, et de temps en temps, c'est la
Hygiène. Ouais, peut-être.
On peut se quitter avec cette image de l'accordéon suisse que
mais
je
oui.
propose.
Hein. Après Pac-Man, l'accordéon. Après Pac-Man, je me réjouis du prochain.
On vous remercie pour nous avoir écoutés sur Loopen Station. Merci à Roberto.
Et merci à toi.
On se réjouit de savoir qu'est-ce qui se passe après Pac-Man et Mental et l'accordéon. Peut-être juste en mots comme ça pour nous donner un peu...
Disons qu'après, on arrive là, on est encore un peu dans des faits relativement... encore un peu à une échelle régionale. Disons que dans la deuxième moitié du XIVe siècle et surtout au XVe siècle, les Suisses commencent véritablement à se faire connaître, à voir leur victoire et leur manière de faire la guerre font vraiment écho à l'ensemble de l'Occident et gagneront ce quand même surnom des dompteurs des princes. Et on verra pourquoi.
Merci et au prochain épisode.